fait peur à la plupart d'entre nous. Je me suis souvent demandé comment des situations imprévisibles de la vie pouvaient nous amener à nous retrouver complètement seuls. Comment des hommes et des femmes pouvaient basculer vers un isolement total qui conditionne tout le reste de leur existence. Et j'ai voulu aller à la rencontre de ceux qui un jour se sont retrouvés seuls contre tous. Parce qu'ils ont choisi de dire haut et fort une vérité qui dérange. Parce qu'ils se sont rebellés contre l'ordre établi, parce qu'ils ont été exclus à cause de leurs différences. Comment se sont-ils battus pour retrouver leur dignité ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Brahim. Sa vie a basculé le jour où il a décidé d'assumer qui il était, qui il aimait, contre les traditions dans sa communauté et dans la cité. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. C'est en région parisienne que je vais rencontrer Brahim. Brahim a 51 ans, il est l'aîné d'une famille de 7 frères et sœurs et a grandi dans une cité de banlieue. Brahim est homosexuel et aujourd'hui, il ne s'en cache plus. Mais pendant toute sa jeunesse, il a vécu dans la terreur d'être démasqué dans un milieu où les homosexuels sont considérés comme des parias.
L'homosexualité est bannie. On n'a pas le droit d'être homosexuel dans la cité. Quand on est un homme, il faut montrer qu'on est un homme, il faut montrer qu'on est en capacité de construire une famille, qu'on a sa petite femme, qu'on a ses enfants. Dans la cité, il faut montrer qu'on est l'homme, quelque part. Il faut toujours avoir le côté un peu dominant.
Le fait d'être l'aîné d'une fratrie de 7 frères et sœurs, est-ce que ça a impliqué pour vous un rôle supplémentaire ?
Ah oui, il fallait que je sois exemplaire en permanence. Et le grand frère se doit être celui qui doit toujours soutenir les plus jeunes. Il doit toujours donner le meilleur exemple possible. Et il ne doit jamais montrer les faiblesses qu'il a, en fait, vraiment.
Votre homosexualité, vous l'avez vraiment découvert à quel âge ?
Je me posais un certain nombre de questions depuis l'âge de 13-14 ans. Mm-hmm. Je n'avais pas de réponse du tout. Donc ce n'est pas simple quand on a 13-14 ans et qu'on grandit avec ça. Quand j'étais pré-ado et quand je regardais mes copains flirter avec des filles, tout ça, j'avais envie d'être comme eux.
Ouais.
D'être comme eux, de vivre les choses comme eux. Eh bien, je ne pouvais pas.
Est-ce que quand on a 14-15 ans et qu'on voit ses copains flirter avec des filles et que vous n'en aviez pas envie, vous, est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous expliquer ça ?
Non, pas du tout. C'est ça le drame de l'histoire, c'est que moi, à l'époque, j'avais personne. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits dans la communauté, chez les musulmans. L'homosexuel n'a pas le droit d'être, n'a pas le droit d'exister. Et par contre, il y a autant d'homos chez les musulmans, dans les pays arabes, dans les quartiers. Mais il ne faut surtout pas assumer son homosexualité. Donc il a fallu que je montre que j'étais intéressé aux filles, alors que ce n'était pas le cas. J'avais pas envie d'affronter les gens, j'avais pas envie d'aller à l'école, j'avais pas envie d'aller au sport, tout ça. Parce que tout le temps, je me sentais différent des autres. J'étais mieux dans ma chambre qu'à l'école ou ailleurs. Ça, c'était une énorme souffrance. Ça a été une énorme souffrance. Et même là, rien qu'à en parler, ça me...
Ça vous
J'ai tendance que les choses se réveillent, qui... Voilà, quoi.
Pendant de longues années, entre 13 et 27 ans, Brahim a dû garder le silence sur sa différence comme un secret honteux. Pour cela, il lui a fallu d'abord se conformer aux modèles et aux normes en vigueur dans le quartier et puis se fondre dans le paysage de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois.
La vie en cité, elle est vraiment difficile parce que d'abord, il faut rentrer dans le moule, il faut être comme les autres, il faut avoir les codes pour être accepté, il faut qu'on ressemble aux autres quelque part. Il fallait avoir en fait le langage, quoi. Le côté toujours en permanence dur. Pratiquer une même activité, souvent c'est le football qui revenait. Et si on sort un peu de tout ça, eh bien on prend des risques et ça va très très mal. Et j'étais contraint en quelque sorte de pratiquer à tout prix le foot, parce que si je pratiquais pas le foot, je risquais d'être montré du doigt et on risquait de dire ou de comprendre que Brahim, il était différent des autres quelque part. Donc tout de suite, je voulais faire croire que j'étais comme mes frères, celui qui était vraiment véritablement passionné par le foot, celui qui était un peu bourrin, celui qui… voilà. Mmh. Et moi, je crois que le premier pas des gens où ils ont commencé un peu à abuser de moi, souvent, c'est quand on va au foot ou dans l'action où des gens se permettent, par exemple, des tapes aux fesses ou même des mains au sexe qui reviennent très souvent. Si on s'est permis avec moi des gestes comme ça qui sont un peu déplacés, c'est qu'on m'avait quelque part repéré et moi, j'avais peur. Le moindre comportement de ma part qui démontrait à un groupe, attention, vous avez vu, le type, il m'a touché. Donc le fait qu'il m'ait touché, ça veut dire que je suis homo, ça veut dire plein de choses, il y a plein de choses qui se passaient dans ma tête. J'avais l'impression d'être seul au monde, en fait. J'avais pas envie, de toute façon, qu'au sein de ma famille, ça ne vienne à leurs oreilles, qu'ils finissent par découvrir que j'étais homosexuel. Donc je me sentais même, à la limite, tellement que je ne m'assumais pas, je me sentais sale.
Vous allez être victime d'une… d'une agression, de la première agression.
Un soir de semaine, je rentrais chez moi aux alentours de 23h. Et je me fais donc accoster et interpeller par un groupe de personnes qui sont cinq. Tiens, alors, tout de suite, les premiers mots, tiens, la Dalpé qui rentre.
Ce sont des garçons de quel âge ?
Ce sont des garçons qui, à l'époque, ont 25-26 ans.
D'accord.
En gros, tu t'es regardé comment tu joues au foot, hein, comme une tapette. Et en gros, souvent, les mots qui reviennent, mais dis-nous que t'es pédé, dis-nous. Alors, tu vas nous le montrer, ça. En gros, on me bouscule. Et moi, je perds complètement tous mes moyens, j'ai peur.
Ouais.
Donc, je me fais entraîner et amener dans une cave. Donc, d'emblée, dès que je rentre dans la cave, il y a une espèce de puissance d'un type qui me prend par le col et qui me rabaisse en descendant, tout ça. Et tu vas voir. Là, en gros, c'était… Le type m'avait fait comprendre que je devais absolument le…
Lui faire une fellation.
Lui faire une fellation, en fait. Je fais une fellation à un type.
Ouais.
Un autre me demande la même chose. Ce qui est terrible, quand même, c'est que ce sont des gens qui montrent qu'ils sont virils, qui montrent qu'ils sont homophobes, mais ce sont des gens qui arrivent quand même à… excusez-moi du terme, un peu à bander devant un homme quelque part. C'est ça qui est terrible. Mmh. Et pendant que l'acte se passe, on a l'impression que d'un coup, il y a un voile qui tombe et qu'il n'y a plus ce côté viril qui apparaît quelque part, en fait.
Ce voile qui tombe, il laisse apparaître quoi ?
Ben, une homosexualité, des gens qui sont à 100% homosexuels. Donc, il ose le montrer quand c'est en bas d'une cave dans le noir. On veut aussi montrer à ses camarades… Vous voyez, on casse du pédé, donc moi, je ne suis pas pédé. Hein. Le pédé, c'est celui qui se rabaisse, c'est celui qui a genoux, le pédé. Mais ce qui est terrible et dramatique aussi, c'est que j'arrivais à me dire, à cause de mon homosexualité, eh ben, je mérite ce que je subis quelque part. Donc c'était en gros bien fait pour ma gueule, quoi. Mm-hmm. Et au bout du deuxième, je suis tout simplement libéré. Eux s'en vont, se barrent. Ils s'en vont et moi, j'ai l'impression d'avoir été, comment dire, assommé. J'ai l'impression d'avoir été… j'avais même pas… C'était comment je vais rentrer chez moi. J'avais l'impression qu'en rentrant chez moi, qu'il allait avoir quelque chose affiché sur mon visage, sur mon corps, comme quoi il y a quelque chose qui s'est passé juste avant de rentrer donc à la maison. Je rentre à la maison. Je rentre dans ma chambre en évitant de faire du bruit. Je voulais prendre une douche pour me laver de tout ce que j'avais subi. C'était même pas possible parce que la douche, elle communiquait avec la chambre de mes frères et sœurs. Et prendre une douche comme ça, ça pouvait éventuellement pousser à ce que mes frères et sœurs pensent qu'il s'est passé quelque chose. Donc je me suis retrouvé dans mon lit et je me suis mis à pleurer. Et j'avais cette angoisse qui m'habitait et cette peur de… Comment je vais pouvoir ressortir dans le quartier ? Comment je vais pouvoir être vu ? Et ma crainte, c'était encore de recroiser ces personnes-là, en fait. Et alors, le truc, c'est que souvent, moi, je… plus j'ai été abusé parce qu'il y a eu les fellations. Ça a été ensuite jusqu'à plusieurs pénétrations à plusieurs reprises par différentes personnes à d'autres moments. Et le truc pour moi, c'est que je voulais à un moment donné qu'ils en finissent, quoi. Que à un moment donné, je voulais plus resubir les trucs, quoi. Je voulais à un moment donné qu'ils me plantent et que je ne ressorte plus de ces câbles-là, en fait. Voilà, quoi. Et parce que j'avais plus envie de. Voilà.
Porter plainte, c'était vous mettre en danger de mort.
Oui. C'est être en danger de mort permanent. Mais encore une fois, c'est pas forcément la crainte pour ma vie, en fait. C'était plus pour protéger encore une fois mes frères et sœurs qui pouvaient aussi être violentés et agressés également.
À partir de là, Brahim se replie sur lui-même, avec son secret et ses peurs. Perdu au milieu de la cité, constamment sur ses gardes. Son seul réconfort, il le trouve en écoutant une radio, Fréquence Gay. Grâce à elle, Brahim découvre que tous les homosexuels ne sont pas obligés de se cacher. C'est cela qui l'a conduit à devenir à son tour animateur radio sur Fréquence Paris Pluriel. Son émission, Homo Micro, donne la parole à ceux qui, comme lui, souffrent de l'homophobie.
Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend Homo. Vous le savez maintenant, le dernier lundi de chaque mois, c'est la grande émission d'Homo Micro. Nous allons passer 2h30 de direct ensemble. Nous sommes donc avec Jafar, ravi de t'avoir avec nous. Tu as donc sorti un livre dans lequel tu relates les 25 premières années de ta vie. Tu en as bientôt 30. Tu as vécu jusqu'au bac en cité, on peut dire, en milieu hostile. Et puis tu l'as quitté pour suivre des études supérieures. Tu es donc d'ailleurs aujourd'hui ingénieur dans l'aéronautique.
Jafar est homosexuel et franco-marocain comme Brahim. Et comme Brahim, il a grandi en cité. Dès qu'il a su qu'il était homosexuel, il a compris que sa seule issue était de réussir socialement pour échapper au quartier.
Déjà à 11 ans, je me rendais compte que c'était pas de ma faute, c'était en moi. J'étais attiré par les garçons. Je pouvais rien faire contre ça. Et donc, autour de moi, j'avais pas, dans cette société, j'avais pas ma place, on me le faisait comprendre, il y avait une maltraitance qui allait avec ça. Donc, c'est vraiment une prise de conscience que le mal n'était pas en moi, il était à l'extérieur de moi. C'était la société qui m'entourait. Et à partir de là, il y a eu une mécanique qui s'est mise en place de combat, en fait. J'ai toujours combattu. C'est-à-dire que autour de moi, j'ai appris à mieux manier le discours pour combattre dans les joutes verbales avec mes frères, etc., ou les gens à l'extérieur de la famille. J'ai beaucoup travaillé pour être premier au collège, au lycée. C'était vraiment pour couper l'herbe sous le pied à tout le monde et ne pas leur laisser la moindre corde pour me pendre, en fait. Et pour un enfant, c'est énorme, hein. C'est tout. J'ai vécu quand même dans la terreur. J'ai vécu dans la terreur tout ce temps-là. C'est énorme parce que j'avais tout le monde contre moi, en fait. Toute l'organisation autour de moi.
Où puisais-tu cet incroyable punch, cet implacable volontarisme, uniquement dans le sentiment de l'injustice ?
C'est le grand mystère, vraiment. C'est le grand mystère. Je ne sais pas. Il y a pas mal d'homosexuels dans les quartiers. Mais en général, il y a un schéma classique, c'est culpabilité, se cacher, hypocrisie, etc. Donc ça, c'est le schéma classique de 99, voire plus, % des homosexuels en cité. Je n'ai pas pu rentrer dans cette mécanique que je trouvais pathétique. Et je n'ai pas pu y adhérer, je l'ai rejeté. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas, c'est un mystère.
Jafar est devenu lui aussi un militant. Il se bat pour dénoncer le climat qui pèse sur les homosexuels au cœur des cités. Pour lui, l'un des éléments majeurs est clairement un problème d'éducation.
J'ai vu mes parents, j'ai grandi avec mes parents, j'ai grandi avec ma famille. Les prêches, les serments dans les lieux de culte, si on leur tient le discours régulièrement, l'homosexualité c'est naturel, c'est rien, il faut accepter vos enfants, il n'y a pas de soucis, ils peuvent être heureux, ils pourront même construire des familles, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, je vous garantis qu'on n'aurait pas les mêmes comportements, on n'aurait pas de la maltraitance par rapport à ces enfants.
Alors finalement, cette homophobie, elle se traduit comment pour vous, dans votre cité ? Quel type d'agression ?
Des coups au quotidien.
Des coups au quotidien ?
Oui. Mais à partir d'un moment, ça ne me faisait plus aucun effet parce que Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai vraiment fait un choix, très tôt, entre la soumission ou la mort. Et la mort ne m'a pas inquiété, en fait. Et je me suis dit, je préfère mourir que d'être soumis, en fait.
À 11 ans.
Un peu plus, 12 ans, 13 ans. Là, vraiment, comme je recevais de plus en plus de coups parce que je me rebellais trop, j'avais pris cette décision de ne pas avoir de peur de mourir, en fait.
D'accord.
Et là, voilà, ça m'a donné encore plus de liberté. Je me suis dit, de toute façon, le pire que je risque, c'est de mourir. Donc, il n'y a pas de souci. Tu fonces, tu hurles, tu ne te laisses pas faire, tu ne te laisses pas marcher dessus, jusqu'à ce que la personne en face cède. Et voilà, et si ça arrive pas, au moins, s'il arrive quelque chose de dramatique, bah au moins, tu ne seras pas soumis, en fait.
Vous êtes au courant de l'histoire de Brahim, des viols dont il a été la victime. Vous est-il arrivé la même chose ?
Non, parce que j'ai eu la chance, contrairement à Brahim, d'avoir des grands frères qui faisaient peur un peu dans la cité, parce qu'ils étaient forts, grands... Il se battait bien, donc j'ai toujours été protégé en ce sens-là.
Est-ce que vous, Brahim, avec 5 personnes autour de vous, dans une cave, vous aviez vraiment le choix de vous rebeller ? Est-ce que là, pour le coup, ça n'était pas la mort qui était au bout ?
Non, mais c'est forcément... Sauf qu'effectivement, la soumission aujourd'hui, je la traîne, quoi. Et la soumission aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'elle me conduit aussi à la mort, en fait, parce que souvent, je me dis, il n'y a pas d'issue pour moi. Et j'aurais dû être révolté. J'aurais vraiment voulu avoir la... cette force, la même carapace que toi pour pouvoir en quelque sorte me sauver la vie en fait.
Dans sa cité, la jeunesse de Brahim est un véritable enfer. Il vit enfermé dans sa solitude et les viols se répètent pendant plusieurs années.
Dans l'année, ça se passe 3-4 fois dans l'année. Sur 5 petites années.
Sur 5 petites années. Hein.
Je veux dire une vingtaine de personnes à peu près qui sont un peu concernées, enfin du groupe, parmi les gros durs leaders. Mais moi je parle de viol, ça peut être tout simplement d'une. Tout ce qui est fellation jusqu'à.
Mais c'est un viol.
Violer et pénétrer, c'est un viol.
Ils ont tous à peu près le même profil, ces garçons.
25-30 ans, des gens d'origine comme moi, maghrébine. Donc je finis par être un peu leur bouc émissaire. Et en fait, comme je représente le mal, voilà, donc on en profite pour m'écraser, pour m'humilier.
Brahim fait tout pour échapper à ses violeurs, mais impossible pour lui de quitter la cité. Il est l'aîné de la famille. Et il ne peut pas abandonner ses jeunes frères et sœurs. Brahim traverse ses 5 années traquées. Surtout, ne pas se faire remarquer, c'est son obsession.
J'ai décidé de me couper du monde socialement avec le quartier, ne plus participer aux activités foot, qui étaient pour la plupart donc foot. J'avais décidé d'organiser ma vie pour ne plus rencontrer personne. Et j'ai décidé tout simplement de m'exclure des gens, de mon quartier, de tout ce qui m'entourait. Aux 3000.
D'être seul.
D'être seul, m'isoler, oui. La difficulté d'être homo dans la cité, dans la culture maghrébine et autres, c'est un problème, parce qu'il faut se taire et vivre dans le silence. C'est interdit par Dieu, par Allah, par ceux qui se disent que la religion elle a un point important et qu'en gros, il ne faut pas faire ça, parce que... Mais Allah et Dieu, tout ça, même s'il y a une puissance, ce sont les hommes qui sont durs et méchants. Mais ce sont des types qui sont incultes, qui ne connaissent rien à la religion, de toute façon. C'est ça qui est dramatique.
Mais qui la revendiquent haut et fort.
Qui la revendiquent haut et fort parce que ça leur permet d'être autoritaire, ça leur permet d'être une force. Et ils jouent avec la religion pour avoir le monopole sur tout, sur les gens, et pour avoir une véritable emprise sur les plus faibles.
Si ce soir, vos violeurs sont confortablement installés dans leur canapé, et qu'ils vous regardent et qu'ils vous reconnaissent, qu'est-ce que vous auriez à dire à
ces gens-là? Je voudrais leur dire que ils ont brisé ma vie. À cause d'eux, je ne peux pas vivre une vie épanouie, équilibrée. Mais en même temps, je me dis Je préfère être à ma place aujourd'hui parce que j'ose parler, j'ose militer, j'ose combattre, j'ose dire les choses, alors qu'eux, ils sont emprisonnés. J'aimerais pas avoir leur vie, parce que je peux vous dire, tous ceux qui ont osé me mettre la main dessus, tous ceux qui ont osé me toucher, tous ceux qui m'ont rabaissé, eh bien, ces gens-là, ils sont autant homosexuels que moi, si ce n'est plus. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont coincés. En gros, ils ont à charge une famille qu'ils n'ont pas forcément, au fond d'eux, désiré. Et je préfère être aujourd'hui à ma place qu'à la leur, en fait. Vraiment.
Brahim a toujours été très proche de sa mère, Jamila. Pourtant, pour la protéger, elle aussi, il ne lui a jamais rien dit. L'une des sœurs de Brahim a fini par deviner l'origine de sa souffrance. Jamila se souvient du jour où sa fille a pris l'initiative de lui révéler ce secret.
Il a dit, maman, Brahim, il est mort. J'ai dit, mais que maman, arrête, faut pas dire cette mot. Je dis, mais c'est pas vrai, arrête. Il a embrassé moi comme ça. Maman, c'est vrai, maman, mais ça rien, ça. Après, j'étais tombée, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré.
C'est vrai qu'au début, c'était difficile pour toi. C'était quand même un peu dur pour toi. Tu te souviens, quand tu avais discuté avec moi dans la voiture, tu pleurais à un moment donné tu
Oui, j'ai mal, parce que je ne t'ai pas fait un enfant. Et tu n'es pas une femme à côté de toi. Mais c'est pas ton bonheur. Parce que tu mettais une femme, tu n'es pas moselle. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est pas la peine. Faut que quelqu'un l'aimait.
Une fois, tu m'as dit, les premiers temps, quand tu as appris que j'étais homosexuel, on arrivait à en discuter, où tu as accepté, tu as dit oui. Mais tu m'as dit, surtout, t'es homo, c'est une chose, mais surtout, il ne faut pas en parler à ton père, parce que ton père va dire que je suis responsable de... Tu te souviens?
Ouais.
Il ne fallait pas en parler.
Parce que je ne peux pas disputer après, dire, ah, ton fils, il est beau. Et je ne veux pas ça. Mais mon mari, il est ouvert. J'ai dit, c'est vrai. Et les mots, moi, il a dit, alors les mots, alors qu'est-ce qui change?
Ah bon?
Je te jure.
Ouais. Ah ben là, je ne savais pas par contre. Mais alors si jamais, imaginons que demain, je trouve quelqu'un, un garçon, et que je décide de me marier, ça... et que je vais me marier au Maroc dans ton quartier.
Ah non, ça.
Non
ça,
ah, ça. Je me marie à la limite, et on fait la fête au Maroc.
Ça non, la vérité, jusqu'à j'ai mort, non. Ah non.
Mais par contre, en France, vous iriez au mariage de votre fils en France?
Oui, mais avec mon corps.
Avec votre cœur.
Et puis ça y est, je comprends, c'est obligé. C'est obligé. Les homos, c'est comprendre, les homos, c'est le Dieu. Il ne vient pas tout seul, il fait tout seul. Il est né de son ventre de sa mère, comme ça. Même homo, c'est homo, il n'a pas radé. Mais c'est la vérité.
Mais elle a raison. Mais...
Ça, c'est nature. Si quelqu'un comprend, c'est nature.
Vous êtes quand même consciente, là, que... On va vous voir à la télévision.
Oui.
Donc.
C'est bien.
C'est bien.
Il y a le sénateur. Très bien. Ah, il va voir télé.
Voilà, oui.
Il m'a fout. C'est tout. Tout le monde, je suis libre.
Ça doit vous faire du bien aussi, vous donner de la force d'avoir une maman aussi ouverte d'esprit.
En fait, moi, j'ai toujours vécu dans le silence parce que ma crainte, c'était justement que je révèle quelque chose qui ne soit pas accepté. Peut-être en entendant aujourd'hui le discours de ma mère, je me dis, mais finalement, s'il fallait revenir en arrière, peut-être que j'aurais dû me révéler, m'affirmer mieux.
Peut-être lui dire plus tôt.
Plus tôt, effectivement, lui dire plus tôt.
Il dit dans son livre qu'il est très reconnaissant envers vous, parce que depuis même que vous savez qu'il est homosexuel,
oui.
Vous avez, finalement, vous l'aimez encore plus.
Ben oui. J'ai l'aimé plus ou j'ai fait attention plus.
Vous faites attention plus parce qu'il a beaucoup souffert?
Il souffrait dans le cœur, mais jamais dit à moi. Jamais il fait mal à moi, jamais.
Moi aussi.
Et ces jours, théâtrés, tous, j'ai mon corps bien.
Je suis touché par la maman d'Ibrahim, par sa liberté de ton et surtout par son ouverture d'esprit. Mais je suis curieux d'en savoir plus sur la relation qu'il entretient aujourd'hui avec son père.
Votre père, qui est au Maroc, qui est resté au Maroc, est-ce qu'il sait aujourd'hui tout ce qui vous est arrivé?
Je pense. C'est venu à mes oreilles. Il le sait. Mais mon père, quand je le vois, c'est toujours le silencieux. On vit toujours dans le non-dit. Il comprend beaucoup de choses, mais il n'en parle pas, il ne le dit pas.
C'est quelque chose que vous aimeriez partager avec lui ?
J'aimerais, mais mon père, c'est toujours quelqu'un qui fuit les choses, qui... toutes ces histoires de pudeur, de religion, de... nous freine un peu, ils nous ralentissent. C'est ça qui est vraiment dommage, vraiment. Mmh. Parce qu'on passe à côté de plein de choses.
Cela fait 25 ans que Brahim a réussi à fuir l'univers des cités, mais il vit toujours avec son passé, avec ses blessures. Et je me demande finalement comment va cet homme qui a dû se construire dans un contexte si cruel.
Vous savez, souvent, je m'en sors toujours que dans mes journées, que mes journées soient en permanence occupées. Je m'en sors toujours de rentrer le plus tard possible, de façon à ce que je sois fatigué et que je tombe d'épuisement de sommeil, pour éviter de me regarder en face et dans une glace, et pour regarder un peu ce type qui a été plus ou moins un peu abîmé en fait par des gens. C'est ça le plus difficile, quoi, donc voilà.
Vous avez été longtemps seul, et vous semblez encore seul aujourd'hui, seul affectivement.
Je suis seul et je continue à être seul dans l'amour. Et en fait, on a brisé quelque chose en moi. On a tellement abusé de moi que j'ai le sentiment parfois au fond de moi d'être devenu un moins que rien, quoi. Parfois, ça m'arrive d'avoir des aventures, des rencontres avec des garçons, et parfois j'ai même le sentiment que ces gens-là abusent de moi. Tellement que j'ai le sentiment de ne plus croire en l'amour, en fait. J'en ai rêvé à un moment donné, et là, plus le temps passe, plus j'avance dans le temps, plus je me dis... je crois que c'est pas pour moi. Est-ce que finalement, dans cette vie... en fait, j'ai le sentiment que ça n'arrivera jamais, finalement.
Mais vous n'avez que 51 ans,
ouais. Oui.
Ça peut encore arriver. L'amour à 51 ans...
Oui. Et après tout, même si ça n'arrivait pas, bon,
mais ça peut arriver.
Mais ça peut arriver.
Malgré ce qu'il a traversé, Brahim parle sans haine. Et pourtant, son témoignage va sans doute encore provoquer des réactions hostiles de la part de ceux qui refusent de voir la réalité en face. Ce que Brahim ne se pardonne pas, c'est de ne pas s'être rebellé, de s'être laissé soumettre par ceux qui excluent, qui brutalisent et qui réduisent au silence les homosexuels comme lui. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation Mathias Elena. Diffusion Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.